Chapitre 25. Traversant des zones marécageuses et dépassant des confluents boueux, les trois galères continuaient à descendre le fleuve Chasse-Corbeau. Quand le vent se révélait suffisant, les Norouquailles permettaient aux galériens de délaisser les rames et de venir prendre un peu l'air sur le pont, en étant attachés évidemment. Après un long séjour dans une cale puante, Bannon apprécia ce changement. Souillé de sueur, de sang et d'entrailles de poisson, il avait mal partout. Et sous le soleil, sa peau claire ne tarderait pas à cuire. Histoire que les esclaves n'oublient pas leurs conditions, Calvert allait et venait sur le pont. Avec sa chaîne autour de la taille, ses phalanges renforcées de fer, ses piques implantées sur les épaules et ses joues cousues, le maudit roi incarnait tout ce que Bannon détestait chez les Norouquailles. Comme un toutou, Crayeux suivait son maître en aboyant.
« Mon roi Calvert, pour eux tous, ce sera un calvaire !»
Comme s'il était pour de bon un animal domestique, Calvert semblait réconforté par la présence de son chaman. Éric, le grand villageois, était assis à côté du jeune escrimeur. Les genoux pliés contre la poitrine, la tête baissée, il s'abandonnait au désespoir. Malgré les efforts de Bannon, il ne remontait pas la pente, se murant dans le silence comme s'il communiquait avec les esprits de sa femme et de ses filles. Dès qu'il tentait d'engager la conversation, le jeune escrimeur essuyait un échec. À la poupe de la galère, plusieurs Norouquailles très excités se penchaient au bastingage pour sonder les eaux troubles du fleuve.
« Des harpons !»
cria l'un d'eux.
« Des lances et des cordes !»
Afin de voir ce qui se passait, Bannon tira sur ses liens, mais chaque mouvement lui faisait un mal de chien. Répondant à l'appel, d'autres esclavagistes accoururent avec le matériel demandé, plus des hameçons et des filets lestés. Chacun à son tour, ils lancèrent des armes dans l'eau comme s'ils participaient à une compétition. Attiré par ce manège, Crayeux se faufila entre les pillards pour jeter un coup d'œil dans l'eau.
« Un poisson, un gros poisson, un monstre de poisson, des tas de poissons monstrueux !»« Un hameçon dans les branchies !»
cria Gara.
« C'est radical !»« Ces poissons sont presque morts !»
grogna un grand Norouquaille. « Mais nous avançons trop vite et nous allons les dépasser !»«
Jetez l'ancre !» ordonna Calvert. Ça vaut la peine de s'arrêter, de quoi manger jusqu'à chez nous.
Dans des grincements de chaînes, plusieurs ancres de pierre tombèrent dans l'eau, puis s'enfoncèrent dans le limon. Grimpant au mât, deux marins plièrent les voiles et les attachèrent à la fusée de vergue. Les deux autres galères imitèrent la manœuvre comme il se devait.
Un poisson-chat!
Lança Bosco.
En même temps qu'un vent monstrueux, on va festoyer par le dieu serpent!
Cessant de lancer leurs armes, les Norouquailles tirèrent sur les cordes pour remonter leur prise. Pour y arriver, il fallut que trois hommes unissent leurs forces. Bien qu'il ait grandi sur une île de pêcheurs, Bannon n'avait jamais vu un poisson si gros. Grognant sous l'effort, les pillards le firent basculer par-dessus le bastingage, puis ils le jetèrent sur le pont. Le corps du poisson-chat était aussi long qu'un canot. La gueule ouverte, ses grands yeux ronds affligeants de stupidité, l'animal saignait de plusieurs plaies infligées par les harpons et les hameçons. Quand il s'accroupit devant la créature aquatique, Crayeux eut du mal à contenir son excitation. Du bout des doigts, il lissa le limon qui couvrait le corps du poisson, puis il recula, porta son index à sa bouche et le lécha. Le poisson moribond continuant à se débattre, l'avorton recula encore pour être hors de portée de ses nageoires barbelées.
« Morsure de poisson, fichu poisson »
couina-t-il en désignant les cicatrices qui couvraient son corps. Comme s'ils étaient seuls au monde et bavardaient gaiement, il sourit à Bannon.
« Reste loin des poissons !»
lui conseilla-t-il. Peu après, les Norouquailles remontèrent un deuxième poisson géant. Quand ils en eurent pêché un troisième, le moral sur la galère passa au beau fixe. Couteau au poing, des pillards entreprirent de vider les prises, répandant sur le pont du sang et des fluides répugnants. Blessé par un coup de queue, un pillard se vengea en réduisant en bouillie la tête de son agresseur. L'odeur faillit faire vomir Bannon. Calvert, lui, regardait le massacre avec une certaine fierté. Puis il approcha, leva sa hache de guerre et l'abattit sur le cou d'un poisson. La tête ne se détacha pas et les moustaches du monstre continuèrent à frémir. Calvert s'y reprit encore à deux fois et la tête finit par se détacher. Visiblement déçu, Crayeux chantonna.
La hache fend le bois et l'épée fend les os. Mon roi Calvert a fendu le poisson, le monstre poisson, tous des monstres.
Avais-tu prévu un festin pour ce soir, Crayeux ?
Demanda Calvert. L'albinos tomba à genoux et fourra les mains dans la cavité abdominale d'un poisson déjà vidé de ses entrailles.
« Là, je prédis un excellent dîner !»
Les norukas eurent au fait d'accéder à la chair tendre et rose de leur prise. Se taillant des filets, ils les engloutirent crus et Calvert ne fut pas le dernier à mâchouiller. En quelques minutes, les trois poissons furent nettoyés et les arêtes passèrent par-dessus bord. Une fois gavé, le roi se paya le luxe d'être magnanime.
« Que les esclaves se régalent aussi. Du coup, ils auront plus d'énergie au travail. »
Les pillards jetèrent aux prisonniers des morceaux d'intestin puant et des branchies tout aussi peu appétissantes. Quand la part de Banon s'écrasa sur son torse, l'odeur répugnante agressa ses narines, mais il avait faim car ses maîtres ne lui avaient rien donné de la journée. La colère monta en lui. Par le passé, il lui était arrivé de basculer dans une transe meurtrière. À ces moments-là, il ne se souciait plus de sa propre survie. Là, il se contrôla, car se déchaîner aurait été un suicide. Tant qu'à mourir, il voulait emporter avec lui autant de norukai que possible. Tirant sur ses liens, il récupéra un morceau gélatineux indéfinissable et le fourra dans sa bouche. Sans céder à la tentation de recracher l'immondice, il la mâcha plus ou moins, puis l'avala. Crayeux vint s'asseoir près de lui, des morceaux de poisson cru plein les mains.
« C'est ma vengeance. Des poissons ont voulu me manger. Et maintenant, c'est moi qui les mange. »«
Que t'est-il arrivé ?» demanda Banon. « Ces cicatrices partout sur ton corps ?»«
Des morsures de poissons. Saloperie qui nage. Le roi Supplice ne m'aimait pas, alors il m'a jeté dans un bassin plein de petits poissons carnivores. » Sans blague, ils m'ont presque dévoré, mais Calvert m'a tiré de là. Puis il m'a conduit chez une guérisseuse. Calvert, mon roi Calvert, pour vous tous ce sera un calvaire.
Banon tenta de reconstituer l'histoire de Crayeux à partir de ses divagations. Si on l'avait jeté dans un bassin de poissons carnivores, était-ce à cause de sa nature d'albinos ou de sa folie? Si Calvert l'avait sauvé, sa loyauté envers le roi s'expliquait mieux. Découvrir ce qui s'était passé révulsa Banon. En même temps, ça éveilla en lui une étrange sympathie pour l'avorton. Avec ce qu'il subissait de la part des norukai, ça paraissait stupide, mais une telle détresse voilait les yeux de Crayeux. Par-dessus son épaule, l'albinos jeta un coup d'œil à la proue où Calvert paradait.
« Morsure, morsure, morsure! Les poissons n'en ont pas fini avec moi. Après ma mort, ils nettoieront mes os de leur chair. »
Crayeux goba un énorme morceau de poisson.
« Pour l'instant, c'est moi qui les mange. Lequel me dévorera, nul ne le sait. »
Banon avala autant d'entrailles puantes qu'il put. À côté de lui, Eric mâchait sans conviction et il semblait malade. Pour l'encourager, le jeune escrimeur goba quelques immondices de plus, mais ça n'eut aucun effet.
« Oh, c'est perdu de temps !»
beugla Calvert.
« On repart ! La mer n'est plus bien loin et nous avons une guerre à faire !»
Quand la galère s'ébranla, le roi baissa des yeux dégoûtés sur le pont souillé de cochonneries.
« Les esclaves vont nettoyer. Ils doivent mériter leur festin. »
Gara approcha de Banon et lui tendit un seau et une brosse.
« Brique !»
rugit-elle, un poing serré.
« Ça te musclera, histoire que tu sois capable de te battre !»
Banon n'avait pas besoin d'exercice pour tuer le premier norukai qui lui en donnerait l'occasion. Pour l'instant, il se résigna à briquer comme ses compagnons de malheur.